Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mes chers bougres, ribauds, paillards, mécréants, bien le bonjour. Ah, c'est vrai que ça sonne un petit peu plus insultant que camarade, hein, mais surtout ça sonne très médiéval. Le Moyen-Âge, beaucoup se le représentent comme dans le film Les Visiteurs, avec des Godefroy et des Jacouilles, sales et violents. Souvent, on pense guerre, massacre, viol et donc, logiquement, insulte. Et de fait, l'ancien français permet des créations lexicales très imagées qui sonnent presque comme une langue étrangère à nos oreilles.
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Du coup, au-delà du cliché, c'est quoi les vraies insultes médiévales ? Eh bien, déjà, il faut reconnaître un truc, hein, en la matière, le Moyen-Âge a été très, très créatif. En fait, certaines de nos insultes viennent directement de là. « Fils de pute » existe déjà, sauf qu'on dit « fils à putain ». Et bien sûr, on peut enrober, fleurir, dramatiser. « Fils de horde »,« vils putain » et « ultra ». Bref, on voit l'idée. A l'inverse, d'autres injures peuvent nous paraître plus étonnantes, voire incompréhensibles. Par exemple, à la fin du Moyen-Âge, les universitaires de Paris se traitent de béjaunes. Ce qui n'a apparemment aucun sens. Mais en fait, si, ça vient de bec jaune. C'est-à-dire l'oisillon, le petit oiseau faible, inexpérimenté, maladroit. Bref, c'est l'équivalent de notre bisu ou bleu-bite pour rester dans les couleurs. On désigne clairement un gamin, un homme pas fait, peu expérimenté. Quand vous dites ça à un vieil universitaire qui a une grande carrière très prestigieuse, au final, c'est une insulte vraiment énorme. Mais attention, il n'y a pas que les mots qui blessent, hein. Les gestes aussi, ça compte. Et ça, on le sait tous, avec par exemple le doigt d'honneur. Au Moyen-Âge, son équivalent, c'est la figue, d'origine italienne, qui semble avoir existé depuis l'Antiquité. Alors, qu'est-ce que la figue ? En fait, la main imite la forme d'une figue avec le pouce, le majeur et l'index qui se rejoignent, tendus vers le haut. Dans le petit monde des mèmes internet, c'est même devenu le symbole pour caricaturer les Italiens. Mais d'où ça vient ? Eh bien, il y a deux possibilités selon l'historienne Nicole Gontier. La première semble assez légendaire. En 1159, la ville italienne de Milan se révolte contre l'empereur Frédéric Barberousse. Les Milanais capturent l'impératrice, Béatrice de Bourgogne, et lui font chevaucher une mule à l'envers pour l'humilier. En représailles, Frédéric fait placer des figues dans les organes génitaux de la mule. Chaque Milanais arrêté est forcé de retirer puis de replacer la figue. Mais attention, en utilisant uniquement ses dents. La deuxième hypothèse, qui est quand même beaucoup plus vraisemblable, est lexicale. Le mot italien « figa » qui évoque le fruit mais aussi le sexe féminin. Donc en gros, la figue qui devient figa, c'est notre con à nous, puisqu'il vient du latin cunus, là aussi le sexe féminin. En règle générale, montrer ses parties, c'est l'insulte classique. Le chroniqueur Jean de Roy raconte que les défenseurs de la ville d'Arras, assiégés par les troupes de Louis XI en 1477, montrèrent leur cul aux assiégeants et autres actions malséantes. Autre geste à connotation sexuelle, toucher, voire arracher ou déchirer la capuche d'une personne. L'historienne Claude Gauvard explique que selon la personne visée, le geste n'a pas le même sens. Ôter le chaperon d'un homme, c'est le neutraliser sexuellement. L'homme qui se découvre, devant une femme ou en entrant dans une église, montre qu'il n'a pas de mauvaises intentions, qu'il est sexuellement inactif. Du coup, toucher son chaperon, c'est comme toucher son sexe, et probablement que le déchirer, c'est perçu comme un grand coup de pied dans les joyeuses. C'est encore pire pour la femme. Dénuder ses cheveux a une portée encore plus grave, puisque ça symbolise carrément le viol. Mais ce que je vous propose pour y voir un petit peu plus clair, c'est de classer toutes ces insultes du Moyen-Âge par thématique, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Tout d'abord, il y a les insultes qui évoquent l'absence de courage ou d'honneur. Pendant la guerre de Cent Ans, une rumeur voulait que les Anglais aient des queues, comme des chiens ou des démons. Les gens commencent à se traiter d'anglais coué, ce qui donne couard, le couard, celui qui est un lâche sans courage. Il y a aussi le traître, le félon, qui vient du mot fell, c'est celui qui est perfide, et donc dépourvu d'honneur chevaleresque. Au XVe siècle, le conflit entre Armagnac et Bourguignon crée aussi l'injure « sanglant traître Armagnac ». Sanglant, c'est une façon de renforcer l'insulte. On a arrêté de l'utiliser telle qu'elle en France, mais les Anglais continuent avec « bloody », ce qui veut dire exactement la même chose. « Bloody hell »,« bloody fool », »,« bloody ridiculous », etc. Ensuite, il y a les insultes qui ont un rapport avec les interdits religieux, comme le « bougre », l'hérétique. En fait, ça vient de Bulgarius, le Bulgare, l'adepte de la secte des Bogomil. Ces hérétiques, implantés dans les Balkans, étaient notamment accusés d'être des homosexuels pratiquant la sodomie. Un bougre, c'est donc l'inverse d'un hétéro. Viennent ensuite les insultes qui se moquent d'un défaut physique ou d'une maladie. Par exemple, le lard, c'est le lépreux. Enfin, il y a bien entendu les insultes à caractère sexuel comme paillard et ribaud. Les hommes sont très concernés, mais les femmes sont encore plus souvent visées. Dans la chanson de geste du XIIe siècle, Alice Caen, le couple royal refuse d'aider le chevalier Guillaume d'Orange contre les Sarrasins. Guillaume, furieux, s'attaque tout particulièrement à la reine, qui est pourtant sa propre sœur. Certes, il critique la lâcheté du roi Louis, mais il traite la reine de « sale pute, chienne publique », et il lui arrache la couronne de la tête. Et on l'a dit, faire tomber la coiffe d'une dame, c'est vraiment, vraiment un symbole dégueulasse. Et en plus, là, on parle carrément d'une couronne. Pourtant, l'insulte est double. Sa partie sexuelle est dirigée vers la femme, mais pour encore mieux insulter son mari, le roi, qui est la vraie cible. Et c'est encore une méthode très employée aujourd'hui, traiter les mœurs de sa mère, de sa sœur ou de sa femme pour se moquer d'un homme. Chez les nobles, les insultes masculines renvoient plutôt au courage, comme on l'a dit. Tout ça participe à un certain imaginaire viril, même s'il ne faut pas généraliser. C'est le cas pour le tout premier roman de Chrétien de Troyes, Érec et Énide. Le chevalier Érec est tellement amoureux de sa femme Énide qu'il en oublie son rôle social, le combat. Il préfère rester au lit avec sa femme plutôt que de participer à des tournois. On le traite alors de récréant, celui qui renonce à se battre, qui est un lâche. Lorsque Énide entend cette rumeur, c'est si grave qu'elle avertit aussitôt son mari. Immédiatement, ce dernier décide de restaurer son honneur et part en quête d'exploit. On voit bien ici que l'insulte est faite pour déclencher l'action. Elle lance le héros sur des chemins de l'aventure, et sans doute que traiter un paysan ou un religieux de récréant n'aurait pas eu cet effet-là. Mais Érec, parce qu'il est chevalier, change instantanément de comportement. L'insulte rappelle donc un devoir et pousse à rentrer dans la norme du groupe social. Pour résumer, tout n'est pas insultant pour tout le monde, même si c'est vrai que l'insulte médiévale, toujours confondue, cible très souvent l'honneur de la personne. On a souvent tendance à associer l'honneur à l'aristocratie, aux chevaliers, mais il concerne en réalité tous les niveaux de la société. Dans chaque sphère, même chez un curé ou un fermier, le sentiment d'honneur joue un rôle social fondamental. Il peut être individuel ou collectif, comme dans les cas des villes, des communautés religieuses ou des confréries professionnelles. On peut l'associer à la loyauté et au rang, mais aussi être lié à l'honnêteté et au respect des normes et des lois. Il faut être installé, exercer un métier honnête, mener une vie familiale rangée, être connu de ses voisins. La cellule familiale, base structurelle de la société médiévale, c'est la norme. Donc, pas besoin d'être noble ou riche pour être une bonne gent ou un prud'homme. À la fin du Moyen-Âge, l'honneur est intimement lié à la fama, la renommée. La bonne renommée donne accès à certains droits. On peut participer à la vie civique et politique de la communauté. Même dans un procès, sur deux témoignages contradictoires, on donnera plus de valeur à celui d'une personne fameuse, appréciée de tous pour son bon comportement. L'opposé de tout ceci, c'est bien sûr le vagabond, l'étranger de passage, dont on se méfie. Personne ne peut attester qui il est et ce qu'il vaut. Comme il ne s'intègre pas au corps social, il n'est pas tenu d'écouter son avis. Quelqu'un qui a une réputation de larron, de bâtard ou de bougre n'est parfois pas autorisé à témoigner dans un procès. ou alors son témoignage peut être disqualifié. Aussi, parfois, un même crime est jugé plus ou moins sévèrement selon que c'est un honnête homme ou un ribaud qui l'a commis. Bâtardise, adultère et mœurs sexuelles ne sont pas des insultes pour vexer, ce sont des accusations d'instabilité sociale, d'absence de structure familiale. Et ouais, au Moyen-Âge, Rémi sans famille se serait fait complètement bolosser. En fait, ça va tellement loin que la justice royale proclame qu'en graciant un individu, elle restaure sa fama. En gros, le roi ordonne qu'une personne a maintenant bonne réputation et tout le monde est tenu d'y croire. Ce qui nous paraît assez absurde aujourd'hui. Évidemment, si on vous insulte à l'époque, il faut répondre. Sinon, c'est comme admettre que l'autre a raison. Les archives judiciaires débordent de cas d'insultes aussitôt démentis, voire qui amènent une autre insulte ou carrément une bagarre. Et ça peut escalader très vite, puisqu'à la fin, ça devient une affaire judiciaire. C'est à partir de ces archives des 14e et 15e siècles que l'historienne Claude Gauvard a ressorti des chiffres hallucinants sur les homicides. Seulement 5% sont une réaction à un adultère et 20% à un autre homicide, alors que 30% ont lieu juste à cause d'une insulte. Le drame a souvent lieu en public, à la taverne ou en pleine rue, où plein de témoins assistent à l'escalade de la violence. Par exemple, vers 1220, un des cousins du roi, Jean de Jérusalem, parle grossièrement des habitants du pays. Aussitôt, le seigneur Bernard de Beyrouth le tue, alors que nous sommes en plein dans la cour du roi. Le souverain ordonne qu'on arrête Bernard, mais les nobles du pays soutiennent l'assassin qui a défendu leur honneur. Ils refusent de mettre la main sur lui et Bernard peut prendre la fuite. Il faut dire que l'homicide public, même prémédité, reste un acte assumé, pardonnable quand il concerne l'honneur. A l'inverse, les autorités judiciaires voient d'un très mauvais œil le meurtre caché, symbole de lâcheté et de bassesse morale. Et ouais, au Moyen-Âge, on rigole vraiment pas avec les insultes. D'ailleurs, je le précise, si l'insulte peut déclencher un meurtre, elle aussi est déclenchée par autre chose. Une injure, c'est si grave que ça ne sort pas de nulle part. Ça n'est jamais un point de départ. En fait, elle cristallise un conflit qui dure souvent depuis longtemps. Les pouvoirs politiques craignent donc les insultes, qui peuvent dégénérer en vendetta familiale. Partout, les agents du roi et les autorités municipales s'efforcent de condamner les insultes en imposant des peines d'amende. La loi de la ville allemande de Lübeck considère par exemple que traiter quelqu'un de voleur ou de meurtrier, c'est vraiment l'accuser de vol et de meurtre. L'insulté peut porter plainte au tribunal pour diffamation et le coupable payera une amende. Ces peines, déjà sévères, deviennent de plus en plus lourdes avec le temps, surtout quand on insulte le pouvoir ou celui qui le détient. Au début du Moyen-Âge, l'insulte à Dieu ou à l'Église, le blasphème, est un simple péché. Quand ça arrive, il faut tout simplement s'excuser auprès du prêtre le plus proche. Mais les choses changent à partir du XIIIe siècle, où on réexplore le droit romain. On affirme alors de plus en plus le côté intouchable de la sacralité de l'Église et de la majesté du souverain. Les rois s'impliquent dans la répression du blasphème, imposant carrément des peines d'amende ou de prison. Ce qui débute par 4 ordonnances publiées par Louis IX dans les années 1250 et 1260, va dégénérer au siècle suivant. Cette fois, Charles VI menace de couper la langue aux blasphémateurs récidivistes. Et évidemment, ce qui vaut pour l'Église vaut pour le roi. Au XIIe siècle, réapparaît l'antique notion de lèse-majesté. Comme le blasphème, c'est un peu vague. À quel moment ça devient du blasphème ou de la lèse-majesté? Les tribunaux ont un peu de mal à trancher au début. Mais au XVe siècle, ça y est, la lèse-majesté est une arme juridique bien rodée. Le roi Louis XI peut l'utiliser contre ses opposants comme Miquelot Fauvel, un serviteur du connétable de Saint-Paul. Miquelot a traité Louis XI de « roi de brin », traduisé « roi de merde ». Résultat, eh bien il est pendu. Dire que 3 siècles plus tôt, la chanson des Aliscans montre que l'on peut traiter la reine de pute mauvaise et se réconcilier avec le roi en... Bref, les temps ont changé. Hein. Au final, il y a beaucoup de points communs entre nos gros mots et ceux du Moyen-Âge. Les insultes sont très diverses, mais tournent souvent autour du sexe, si bien que les injures les plus courantes du Moyen-Âge sont aussi celles de notre époque. La différence principale, c'est sans doute le rôle de l'insulte en elle-même. Au Moyen-Âge, c'était une vraie menace, un réel danger. Les gens y réagissaient très mal et donc la loi l'encadrait très durement. Notre société, moins basée sur l'honneur, est quand même plus protectrice. Mais c'est pas une raison pour en profiter et balancer des trucs dégueux tout autour de vous, hein, je vous préviens. Parce que même si vous finissez pas poignardé, vous risquez quand même de prendre une bonne claque. Alors, promis, un jour on fera un épisode de paix, d'amour et d'allégresse sur les mots gentils du passé. Mais d'ici là, exprimez votre amour, hein, et si vous le pouvez, bah, laissez-nous un petit commentaire sur l'appli. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.